Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Donc en ce lundi où on commence la semaine avec notre chroniqueur Alain Labonté qui sera là pour nous parler du monde selon Alain. Quel va être son sujet ? Peut-être que je le sais déjà un peu, mais je vais vous faire attendre. Restez avec nous pour le savoir. Et en deuxième partie, eh bien, nous aurons le grand plaisir de recevoir Jean-Bernard Hébert, directeur artistique et propriétaire du Théâtre Rougemont, qui sera avec nous pour nous présenter le spectacle « Béatrice et Marie-Josée en maudit », M-O-T-S et D-I-T-S, bien sûr, avec Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamp. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'instant, comme une petite indication pour vous, parce que quand même, ici, on est bon, n'est-ce pas Jean-Sébastien Laliberté ? Bonjour d'ailleurs.
Bonjour d'ailleurs.
On est quand même bon, donc une petite indication. On commence la chanson avec Brassens qui nous chante « Les funérailles ».
Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards à tombeau grand ouvert emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où. Et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil. L'époque des m'as-tu vu dans mon joli cercueil. Ou quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabées ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans.
Alain Labonté, bonjour.
Bonjour Arlette, comment vas-tu?
C'était Dédicace pour toi, Brassens, qui nous chantait Les Funérailles.
Ah, c'est bien. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend bien. Oui. Pourquoi tu es au fond de ton jardin avec un verre à la main et en plein soleil, ne va pas m'énerver.
Avec une caméra. Non, c'est que si vous m'entendez bien, je vais faire attention à ce que je dis. C'est seulement pour ça.
Ah bon.
Bref, alors, vous oui, avez passé une belle semaine. Vous êtes ennuyé de moi, premièrement.
Mais bien sûr, mais nous savons aussi que la semaine prochaine, tu seras ici en studio.
Oui.
Tu n'oublies pas. Ah là.
Avec ma jambe de bois.
Oui, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps.
Non.
Plus pour longtemps. Alors, de quoi nous parles-tu aujourd'hui, Alain?
Bien. Écoutez, j'avais envie de parler des Olympiques, de l'impact que ça fait sur des gens de gagner une médaille, mais j'étais allé à des funérailles la semaine dernière et j'ai décidé de vous parler de ça.
D'accord.
Parce que ça fait quand même un an et demi, moi, que j'avais pas vécu ça, des funérailles, et ça m'a beaucoup fait réfléchir à un aspect qui, bien entendu, a rapport avec les rites de passage. Donc, est-ce que vous êtes prêts?
Ah, on est prêts. Oui. On t'écoute.
Bon, premièrement, ce sont deux filles que j'ai connues à cause de mon écriture, surtout, qui, l'an dernier, m'ont approché pour me demander, durant que leur mère était dans les dernières semaines de sa vie, elle était dans une maison de soins palliatifs. Elles m'ont demandé si, via Zoom, Facebook, je ne me souviens plus trop, si j'accepterais de lui lire des extraits littéraires.
Ah!
J'ai dit oui, j'étais avec grand plaisir. Et c'est ça. Ça a été une très belle rencontre. Anita, son nom, elle avait 83 ans. Mais je vous dirais que ça a été une rencontre en ce sens que il y a des gens comme ça dans la vie qui sont mis sur ta route et t'as l'impression d'avoir vécu à la même adresse qu'eux, mais à des saisons différentes. Comme si on était deux âmes jumelles, en quelque part. Et il y avait une correspondance entre elles et moi dans nos discussions, dans nos rapports. Puis je me dis, mon Dieu, l'écart de génération, ça n'a pas d'importance dans la vie. Quand on fait sa vie avec son cœur, avec ses émotions, tout ça, on peut être connecté à tout le monde facilement.
Oui.
Donc, j'y arrive. Je sens que vous êtes nerveux, là.
Non, on attend parce que j'étais en train de me dire que, oui, les cartes de génération que nous avons avec Jean-Sébastien n'a pas d'importance quand on se parle.
Tout à fait. Donc, je suis allé aux funérailles parce qu'elles m'ont invité et elles m'ont demandé, bien entendu, si je pouvais lire un extrait. Un extrait de livre, peu importe lequel. Donc, je me suis rendu sur place et j'ai été tellement émue. Ça m'a brassé beaucoup plus que je n'aurais imaginé. Et ça m'a amené à réfléchir sur un aspect, dans le sens que souvent, j'entends des gens autour de moi, quand on a des discussions comme ça, hein, qui entourent la mort, qui disent « Ah, moi, quand je vais mourir, je veux que ce soit vite fait, je veux pas d'exposition, je veux rien qu'on me brûle puis qu'on passe à autre chose, et c'est ça. »
Ils veulent parce qu'ils ont la peur qui les habite au moment où ils sont encore vivants, prêts.
Peut-être, mais je pense qu'il y a un point qu'ont oublié ces gens-là, c'est que c'est pas pour eux, c'est pour ceux qui restent.
Mm-hmm. Mais oui, bien sûr.
C'est ça la différence. C'est comme un testament. Je fais le parallèle. Quand on est responsable puis on est assez généreux, on fait son testament et on laisse pas les autres s'emmerder avec ça,
oui,
puis se chicaner avec ça après. Donc, c'est encore une fois, oui, de la responsabilité. Et là, à ces funérailles-là, on dirait que j'ai renégocié avec cet esprit-là, si on veut, de rassemblement, de gens qui ont été invités, bon, il y avait de la famille, des amis, des proches, tout ça, mais qui sont invités pour une raison, parce qu'ils ont connu cette femme-là. Et il y avait tous un lien avec, privilégié, et cette occasion-là, c'est de célébrer ensemble le passage de quelqu'un. Et ça, ça m'a rappelé que c'est durant la pandémie, tu sais, les personnes âgées dans les maisons de retraite et tout ça, qui étaient seules, qui oui. mouraient seules, qui se passait rien. On n'est pas fait pour ça, l'humain. On a besoin de boucler la boucle. On a besoin de prendre ce temps-là pour honorer la mémoire de quelqu'un. Et ce n'est pas rien, le passage dans une vie. Et c'est drôle parce que là, avec mon verre de vin au soleil sur le transat de la rivière, et dans mon dos, je vois la maison de mon voisin. Mon voisin, l'autre jour, qui me disait, « Ah, quand on meurt, on laisse juste des biens. » Puis nanana. Puis là, je fais, « Oh, stop. » J'ai dit, c'est quoi ça, cette affaire? J'ai dit, c'est pas vrai. Chaque personne qui rentre dans ta vie, ben, elle te laisse quelque chose.
Ah oui.
Il y en a peut-être que tu vas oublier, mais c'est pas vrai que tu vas oublier tout. T'oublies pas tes enfants, t'oublies pas ta femme, t'oublies pas. Ah ben non. Ben c'est ça. C'est pas vrai qu'on laisse juste des biens. On laisse ce qu'on a donné.
Oui. Un héritage. C'est un héritage autre que ce dont est trébuchant.
C'est ça. Donc, j'étais content d'être là. Que ça me rappelle l'importance de ce rite-là,
oui.
De ce rassemblement-là et de voir, entre les enfants d'Anita qui étaient tous là, tu voyais que ça leur faisait du bien d'être entourés de nous, de tous les gens qui s'étaient pointés au salon.
Oui.
Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et c'est important. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler cette semaine.
Ben, tu fais bien et puis on va en rediscuter après la musique parce que moi, j'y pensais justement, j'en parlais justement ce week-end parce qu'on nous dit on a le temps, mais non, il faut quand même le faire parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver.
Ah ben oui.
Donc, c'est une bonne chose. Pour l'instant, on part en musique et puis on revient avec toi tout de suite après Lazara qui chante « Tu t'en iras ».
Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirai que tu m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais. Tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brimée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois. Mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. J'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras.
Alain, es-tu toujours avec nous?
Bien
Est-ce
sûr.
Que tu as fini ton... La plupart du temps, je t'aime, mais il y a des moments, quand tu me racontes des choses comme ça, c'est... ça me fait un peu grincer des dents. Mais bref...
Ah ben, on fait tous des choix. Hein, quand vous voulez animer une émission...
Ah, il est gentil. C'est dans ces moments-là que je t'aime le plus. Bah, en revenant sur les histoires, ce dont on a parlé en première partie, alors j'adore, c'est ce que je disais hors antenne à Jean-Sébastien, les synchronicités sont absolument merveilleuses. Dimanche soir, en rentrant de la campagne, je parlais avec une amie et elle me disait ce qu'elle avait prévu, étant, alors que dans ma tête, elle a encore pas mal de temps, mais... je me suis dit, oui, c'est vrai, moi, j'ai rien fait, donc je vais aussi préparer ça.
Ouais.
Pour pas que mes enfants aient à porter le poids de tout ça, c'est à moi de m'en occuper avant. Mais
oui,
ceci dit, je pensais à quelque chose, je ne sais plus si on m'en a parlé ou si je l'ai lu, mais faire au moment où tu sais que tu es dans tes moments où tu vas partir parce qu'il te reste peut-être quelques semaines ou quelques mois à vivre. Moi, ce que j'aimerais à ce moment-là, c'est assister à mon enterrement, c'est-à-dire faire une fête avec les gens que j'aime, ma famille, tous ceux qui voudront venir fêter, même si je ne suis pas capable d'être debout, tu vois, mais de pouvoir leur dire merci d'avoir été dans ma vie, je vous aime. Je pars tranquille, voilà quoi, tu sais?
C'est bien. Et je pense que ce qui est intéressant, toutes les formules sont possibles. Tu vois, je pense que c'est en France, il y a une dame, écoute, elle est super en forme, là. Je pense qu'elle a 71 ans, mais vraiment en forme. Elle a programmé sa mort pour ses 75 ans. C'est figé dans le temps.
D'accord.
Son cocktail est prêt, toute l'équipe.
Je parlais pas de ça, moi. Je parlais d'une mort naturelle qui viendrait après.
Non, je suis d'accord. Sauf qu'on parle de la mort. Et elle a décidé que moi, je vais partir en forme. Et donc, mais de faire ce choix-là, comme toi, de faire le choix de célébrer ton départ de ton vivant. Tu sais, il y a de multiples choix qui peuvent être faits sorte pour souligner ou célébrer. C'est ça qui est bien aussi. Tu sais.
Ça enlève pas,
pendant qu'on est là qu'il faut faire des choses.
Ça n'enlève pas la tristesse pour ceux qui restent, mais en même temps, savoir que tu as eu le temps de regarder chacun dans les yeux pour dire voilà quoi.
Oui. C'est bien.
Se rappeler un souvenir heureux, un souvenir drôle. Bon, j'en aurai en pagaille quand même des souvenirs drôles, donc je pense que je vais pouvoir en échanger. Se souvenir de quelque chose comme ça, remettre un moment de bonheur, et puis même si c'est pour partir 3 mois ou 1 an après, au moins tu gardes le souvenir, les photos et le souvenir dans ta tête des funérailles, quoi. Qui ont été faites.
Ben oui, c'est bien.
Mais je pense que c'est quelque chose de fort, ça, quand même, parce que ce besoin-là, cette envie-là qu'on a, parce que ça me fait penser, ce scénario-là de faire quelque chose de joyeux avant de partir. On entend beaucoup les personnes qui étaient dans des états de dépression très graves et qui ont terminé par se donner la mort. Et dans les semaines qui précédaient, ben, beaucoup de personnes n'étaient pas au courant parce que, ben voyons, on est allé faire une fin de semaine puis c'était super, c'était le party, tout bonnement, tout ça. Et c'est ce que ces gens-là veulent. Ils veulent avoir un moment...
Un moment de bonheur, quelque chose d'agréable. Mais oui.
Et après ça, eux autres, ils sont prêts à passer à l'étape suivante.
Ben
bon, mais c'est sûr que là, on n'est pas dans ce scénario-là, mais ça me fait... Intrinsèquement, il y a ça fondamentalement en dedans de nous, je crois.
C'est vrai. Tu as raison.
Oui, puis de faire ça dans la lucidité aussi.
Même
pas dire qu'on va l'être tout le long. T'sais.
Même fatigué, mais tu vois, encore en disant, bon, ben voilà, j'ai cette maladie qui me ronge, je ne sais pas exactement combien de temps. Profitons-en pour faire une grosse fête, puis tu te rends compte, après, les gens, si ça m'arrive en France, les gens du Québec qui seront obligés de faire le voyage.
C'est sûr. Aïe, on va t'organiser.
Faut de la place.
Ben justement, ton testament, tu peux peut-être prévoir des billets d'avion.
Oui.
Faire les réservations.
C'est ça. Un avion complet, pas des billets. Soyons. Un avion complet.
Je pense que je vais te coacher toi, pour ton testament. Oh là là.
Mais bon, écoute. Non, pas, non, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de très important.
Mais
ce qu'on a appris, puis tu le sais toi-même, puisque tu as fait des chroniques avec Poussadi aussi, quand elle nous parlait de la mort, elle faisait ça d'une manière tellement, tellement jolie, tellement joyeuse, disons le mot, que ça donne envie de faire quelque chose. De faire quelque chose de sa mort. J'ai pas envie de partir loin de là.
De s'y attarder sereinement.
Oui, voilà, sereinement, c'est le mot juste, Alain Labonté. Oui,
souvent j'ai le mot juste.
Ah, t'es pas un écrivain pour rien. Disons-le.
Aïe, aïe, aïe.
Mais oui, il y a ce côté-là, cette façon de savoir dire au revoir avec élégance.
Voilà. Ouais,
quand on en parle souvent sur une scène de théâtre, et c'est une phrase qui m'a toujours plu, savoir tirer sa révérence avec élégance.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm.
Je vais mettre ça, j'aimerais mourir de cette façon-là.
Elle a su tirer sa révérence avec élégance.
Et voilà.
Pourquoi
et voilà.
Pas
après avoir été coachée par Alain Labonté.
Comme ça fera sourire les inconnus qui passent et je continuerai à les faire sourire même après.
C'est une conversation
extrêmement gaie que nous avons. Tout va bien.
Ben oui. Mais en tout cas, pour moi, c'était un beau moment.
Écoute, c'est chouette d'en avoir parlé, puis d'en avoir parlé de cette façon. C'est chouette aussi d'être quelqu'un que l'on peut approcher pour lui dire « Viens lire quelque chose, un essai ». Je trouve que c'est un merveilleux cadeau qu'on te fait à toi.
Oui, mais ils m'ont fait un cadeau aussi. Puis moi aussi, je suis partie avec quelque chose. Là.
Oui, oui. C'est très beau, c'était un bel échange.
Ça là-dessus, oui, mais je ne suis pas revenu de là avec l'idée que j'avais offert quelque chose. Plus, comme tu dis, je pense que j'ai partagé.
Oui, un échange.
Un moment, tu sais, c'est ça. Fait que, c'est super.
Et puis, tu as été faire du lien.
Oui, mais moi, je suis toujours disponible, comme tu sais.
Oui.
Et je le dis toujours, ma cape de Batman est fripée, mais elle vole toujours. Donc.
Alors, Batman, suite à ça, on va te laisser dans ton jardin ton verre de vin, le soleil et ton chat.
Juste pour vous rendre un petit peu plus jaloux, j'arrive du potager, puis il y a des beaux concombres, des belles tomates. Du romarin, du persil, des aubergines.
Écoute, excuse, Alain, on est en train de te perdre, là, Alain.
Tu peux...
Non, Sébastien, je ne doutais pas que tu avais du méchant dans ton cœur.
Mais tu sais, la semaine prochaine, quand tu arrives, tu peux venir avec un panier, hein?
Ah, c'est vrai!
De légumes!
Ben oui, c'est ça!
Allez, ouais. On t'embrasse.
Je vais commencer par changer l'eau en vin, on verra après.
Allez, on t'embrasse bien fort et on te dit
moi
à la
aussi.
Semaine prochaine, Alain.
Ok, bye bye.
Au revoir. Et on part en musique avec Safia Nolin qui nous chante PLS.
Que je rêve, que je crève. Cent fois que je rêve, que je plonge dans la gauche sans lumière, en tournant vers l'île. Cent fois que je sens, que je déverse en touchant cette île. We'll be right back.
Et voilà, alors maintenant, la deuxième partie d'émission, nous attendons Jean-Bernard Hébert avec qui nous allons parler du spectacle Béatrice et Marie-Josée en maudit.
La foule est en délire.
Comme tu sais bien faire les choses.
Faramineux, avec votre animatrice Arlette Farah.
vous avez grimpé tout là-haut sur les montagnes de Corée.
Avec une autre... Ah, ça y est, j'étais en train de parler en dehors, hors écran, j'allais dire, hors micro avec Jean-Bernard Hébert.
Je m'étais dit que j'étais pour t'avoir cet été et voilà, c'est fait.
Et bien sûr, Jean-Sébastien s'est précipité pour montrer à quel point je suis attentive. Jean-Bernard, bonjour.
Allô.
Quel plaisir.
Quel plaisir est pour moi, Sache.
Alors, on va commencer. D'abord, on a plein de choses à entendre de ta part. Mais tout d'abord, je t'ai présenté en début d'émission et on va parler d'abord du spectacle.
Oui.
Parce qu'au théâtre, donc, toi, tu es propriétaire et directeur artistique.
Exactement.
Du Théâtre Rougemont.
Le Théâtre Rougemont que j'ai... Enfin, la compagnie des productions Jean-Bernard Hébert fête leur 36e anniversaire cette année.
Bon anniversaire!
Merci, on devait fêter le 35e l'an dernier. Finalement, COVID oblige, oui. On est obligé de remettre les festivités. Ce qui fait que la prochaine année va être une double festivité. C'est-à-dire que les spectacles que je devais faire en 2020 ont été reportés en 2021-2022. Et nécessité oblige. Donc là, cette année, évidemment, à cause de la COVID, il fallait évidemment selon suivre les instances de la santé publique et faire des spectacles COVID. Donc évidemment, je veux dire, je me suis lancé à corps perdu dans ce beau projet que j'avais avec Béatrice Picard, Marie-Josée Longchamp, Jean-Jacques Boudreau et Alain Zouvi, de faire en fait un hommage complet aux 100 dernières années. Parce que bon, Béatrice Picard, je dois vous dire, fait ses 70 ans de carrière cette année. Elle remonte sur scène à 92 ans, là, je veux dire.
Ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis, quand on voit quand on connaît le personnage, qu'on le voit, cette énergie qu'elle a, ce rire, cette facilité, c'est extraordinaire, quoi.
Bon pied, bon œil et bonne mémoire.
Oui, oui, parce que c'est ça aussi. Ah, moi, la mémoire,
elle est toute là, puis tu lui passes rien. Hein. Moi, je dois vous dire, et je fais une courte parenthèse ici, j'ai connu 4 femmes comme ça dans ma vie, je veux dire, qui sont des forces de la nature, point de vue santé, point de vue... j'ai connu, bon, évidemment, Béatrice, il y a Madame Denise Filiatreau, il y a Jeannine Duteau, et il y avait ma mère aussi, qui ont été des ces femmes-là, je veux dire, écoute, à 90 ans, 91 ans, je veux dire, continuent à travailler sans relâche et avec une vivacité d'esprit, une précision, et je trouve ça extraordinaire.
Ah oui.
Donc, dans le cas de Béatrice, elle avait ce projet-là dans ses cartons, tout ça, on avait parlé aussi beaucoup. On s'est rencontrés à plusieurs reprises et puis finalement, je veux dire, au début, j'étais un petit peu réticent. Puis après ça, je veux dire, plus le projet se bonifiait de rencontre en rencontre, là, j'ai dit, OK, là, on est prêt à faire quelque chose de beau. Alors, on va faire un hommage, un grand voyage à travers la littérature québécoise, la poésie québécoise, le théâtre québécois et surtout des textes, des romans qui ont marqué l'histoire de la littérature québécoise, de la dramaturgie. Donc évidemment, on va partir de Saint-Denis-Gardon en passant par Anne Hébert, entre Pauline Julien, Gérald
oui,
Godin, Michel
oui,
Tremblay, Raymond Lévesque, Clémence Desrochers, Loco Locas, Jean-Pierre Ferland, évidemment. Et tout ça va nous donner un spectacle de 90 minutes sans temps mort, où finalement, je veux dire, ces femmes vont se raconter,
oui.
Parce qu'évidemment, je veux dire, elles vont parler d'elles aussi. Elles se sont connues, je veux dire, les deux ont incarné le même personnage à peut-être 10 ans d'intervalle à l'époque où finalement, Béatrice jouait Jeannine Jarry dans Rue des Pignons à la radio, de Radio-Canada, et Marie-Josée Longchamp a repris ce personnage-là en 1966 à la télévision. Donc, c'est incroyable, je veux dire, c'est... Et il fallait évidemment, pour mettre tout ce beau monde en scène, ça me prenait metteur en scène, donc j'ai trouvé en Alain Zouvi...
Ah, pas avec n'importe qui, lequel?
Ah, avec qui j'ai eu un grand bonheur à travailler,
ah oui?
Que je connais depuis, bon, on se connaît depuis 30 ans, mais je veux dire, Alain est un metteur en scène, je l'appelle mon humaniste pragmatique, c'est-à-dire que j'aime tellement comment il s'adresse aux comédiens, j'aime tellement comment il leur parle, comment il les dirige, comment il est avec eux, c'est waouh, c'est vraiment, je veux dire, c'est une belle rencontre, une belle découverte, et puis je suis très content de travailler avec Alain. Et à la musique, évidemment, Jean-Jacques Bourdois fait des arrangements absolument superbes. Donc, on a très, très hâte. On va commencer, on casse ce spectacle-là à Rougemont, parce que comme Rougemont a été fermé en 2020, et en presque toute la saison 2021, parce qu'évidemment, avec les consignes de la santé publique, on savait
oui.
pas trop. Donc là, j'ai dit, écoute, on casse le spectacle à Rougemont à la fin du mois d'août, 4 soirs, et après ça, on va partir en tournée tranquillement. Et ils veulent le faire. De toute façon, Béatrice, ça veut jouer jusqu'à 100 ans. Fait que j'ai pas le choix, je veux dire, on va toucher. J'aurais pas le choix de le faire.
Mais parce que ces deux femmes-là, ces deux monuments-là, ne serait-ce que pour aller les voir, les entendre sur scène et puis les voir sur scène, quoi.
Exact.
Parce que.
On
leur souhaite de passer longtemps. Enfin, on souhaite en tout cas à Béatrice Picard de pouvoir jouer jusqu'à 100 ans, mais profiter du moment où elle passera dans votre coin.
Exact. On va être à Rougemont 4 soirs. Après ça, écoute, on s'en va à Gatineau. Après ça, on va à La Mont-Jolie, Sorel. On va jouer également, je veux dire, à Victoriaville, à Saint-Hyacinthe, à Chambly. Et là, il y a plein de villes dans le collimateur, là, Boucherville, Granby, Valleyfield, qui sont dans les instances, Victoriaville. Donc, j'ai très, très hâte. Là. Et voir d'autres villes, évidemment, qui vont se rajouter au fur et à mesure des représentations. Donc, c'est un spectacle où j'invite les gens à venir voir ces deux forces de nature sur scène, mais au-delà de ça, aussi faire un beau voyage à travers les 100 dernières années que nous a offert, je veux dire, tous ces artistes, tous ces créateurs, tous ces artisans. Écoute, je vois Béatrice, tu sais, faire danser un rap avec le Colocast à 92 heures sur scène. De wow, je suis sur mon derrière.
Est-ce que le spectacle était déjà tout construit? Est-ce que tu as participé un petit peu au montage de tout ça?
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, quand Béatrice et Marie-Josée m'en parlaient, elles avaient ce projet-là, mais je veux dire, je trouvais que le projet commençait, est en gestation, tout ça. Et à un moment donné, j'ai convenu avec Alain Zouville, le metteur en scène, j'ai dit, il va falloir le personnaliser davantage. Parce que juste de la poésie, juste avoir un côté un petit peu didactique, j'ai dit, je pense que ça va être un petit peu trop lourd. Donc j'ai dit, pour éviter ça, va falloir mettre beaucoup d'humour dans ce spectacle-là. Et aussi, il va falloir que ces femmes se racontent. Alors, c'est là qu'Alain a commencé à faire des séances d'improvisation avec eux sur scène, les mettre en étape. Et comme les deux comédiennes se connaissent depuis 40 ans, ça a été plus facile. Donc, on a pu comme...
Bouger un peu les choses. Il y a des chansons aussi.
Il va y avoir des projections vidéo. Et il va y avoir aussi, je veux dire, ce que moi j'appelle, qui est très important, on revisite aussi, je veux dire, ces personnalités. Elles vont parler de leur métier, mais elles vont parler aussi, je veux dire... de leur amitié, de leur complicité depuis toutes ces années.
Ah, c'est bien ça.
Donc, le public va être complice de ça aussi. Mmh. Parce que juste faire un spectacle, disons, très, 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 très didactique, tout ça, je trouvais que ça manquait un petit peu d'humanité. Donc là, finalement, le fait d'avoir eu le merveilleux Alain Zouvi à l'intérieur de ce spectacle-là et d'avoir contribué de façon directe à ce que... cette pièce, ce spectacle prenne forme, parce qu'on est en plein cœur de la création.
Oui,
là.
Oui. Donc, ça permet de faire le lien.
Exact.
Tout ça, ça permet de...
Exact.
Ce fameux lien dont on nous prive. Donc, c'est important de l'avoir de cette façon-là.
Exactement.
Parce qu'elles vont traverser aussi des textes qui les ont émus, qui les ont touchés.
Et aussi bien, je veux dire, les textes de Monique Proulx que de cette merveilleuse poète Inou, là, Joséphine...
Oui, Joséphine Bacon. Ah, là, merveille.
C'est beau, tout c'est ça, beau. Je veux dire. Kim Thuy, on est là-dedans. Et puis moi, à chaque fois, je regarde ça, puis je veux dire, j'ai souvent la larme à l'œil, parce que bon, je me dis, mon Dieu, que le temps passe vite.
Alors, c'est du 25 au 28 août.
Du 25 au 28 août, au Théâtre de Rougemont, dans les Pommes, où on se souhaite, évidemment, je veux dire, ces quatre belles représentations sans pépin, mais aussi où on se donne le droit d'inviter les gens. On le joue en COVID, donc évidemment, la distanciation est respectée, tout ça, les bulles, tout ça va être respecté, ne vous gênez pas. Venez faire un tour aussi dans cette région magnifique, parce que vous savez, Rougemont est la capitale de la gastronomie. Vous allez pouvoir, facile d'arriver un petit peu plus tôt en journée, d'aller déguster des sites de glace, d'aller dans des vignobles.
Ah, c'est bon ça!
d'aller cueillir des pommes aussi, parce que les pommes viennent de commencer tranquillement. Donc, on invite les gens à venir. Puis, c'est pas très loin de Montréal. Je veux dire, on est à quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est un beau bain de nature. Là. Vous êtes au plein cœur. Le théâtre est situé au pied de la montagne, là, dans un oasis absolument extraordinaire. Donc, on se souhaite du beau, du bon pendant ces quatre représentations, avant de revenir en force l'an prochain avec une saison complète.
Alors, on va en parler tout à l'heure, mais avant, on va écouter ben, justement Marie-Josée Longchamp, qui nous chante « Ne pleure pas si tu m'aimes ».
L'amour n'est rien, tu vois, tout est bien. retrouveras mon cœur, essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m'aimes. Je suis seulement passé de l'autre côté. Pense à moi, souris, prie pour moi et continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Ne pleure pas si tu m'aimes et donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Je suis moi. Ce qu'on a été l'un pour l'autre, nous le sommes toujours, 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 toujours.
La mort n'est rien, tu vois, tout est bien. Tu retrouveras mon cœur, essuie tes larmes
et ne pleure pas si tu m'aimes. Je suis seulement passé de l'autre côté. Pense à moi, souris, prie pour moi.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Ne pleure pas si tu m'aimes et donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Je suis moi
et tu es toi.
Ce qu'on a été l'un pour l'autre, nous le sommes toujours, 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 toujours.
Alors la voix masculine que l'on entend avec elle, c'est Jean-Jacques Bourdeau. Jean-Jacques Bourdeau qui est compositeur et musicien, qui l'a accompagné dans son spectacle sur Raymond Lévesque et qui l'accompagne également sur scène pour cette pièce.
Exactement.
Hein?
Exactement. Jean-Jacques a un grand talent. Et puis vraiment, c'est qu'on l'aime. On l'aime.
Alors, parlons théâtre.
Oui.
Moi, c'est ma passion. Enfin, pas d'être sur scène, hein, d'être dans la salle. Qu'est-ce qui va se passer?
Ben écoutez, moi, je dois vous dire ceci, c'est qu'en fait, quand est arrivée la COVID en mars 2020, vraiment les productions Jean-Bernard Hébert, on avait le vent dans le dos. Là. C'était, ça marchait très bien. On avait évidemment Garçon, qu'on avait commencé la tournée en janvier, et il nous restait une douzaine de représentations à faire, puis on était à guichet fermé. Donc, il a fallu évidemment arrêter les représentations. Huit femmes, on n'avait pas commencé à répéter. Par contre, la distribution était faite, on avait fait nos photos, tout ça. Il a fallu évidemment mettre un stop à ce spectacle-là. Puis malheureusement, parce que c'était... On était en décollage, là.
Ouais.
Et il y avait évidemment Amsterdam, ça a été évidemment le spectacle sur Brel, qu'on a dû arrêter après deux représentations. Et comme l'autrice, évidemment, a voulu reprendre ses droits, donc j'ai pas pu donner suite au spectacle. Et puis, bon, malheureusement. Et donc là, je me retrouvais avec deux spectacles à refaire. Et ça a été merveilleux parce que toutes les comédiennes de Huit Femmes se sont manifestées. On dit, Jean-Bernard, on le fait. Quand tu seras prêt, tu nous appelles. Et j'ai
alors,
pu reporter...
ça, c'est cadeau, ça.
Ça, c'était un cadeau. C'était du melon au miel. C'était un forêt noir avec des belles griottes. C'était... Tout était au...
arrête de me faire envie à cette heure-là.
Tout était là, tous les ingrédients étaient là. Donc, on a reporté le spectacle. dans lequel je joue également Béatrice Picard. Donc, on va faire le contraire de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on va partir, au lieu de commencer l'été, on va commencer en tournée à partir de février 2022. Et on va terminer en saison estivale l'été prochain, au mois d'août 2022. D'accord. Donc, on va faire, tout simplement, je veux dire, on a basculé, je veux dire, d'un an et demi, parce que, bon, évidemment, la santé publique oblige. Et comme cette pièce est une comédie policière adaptée par Michel Tremblay, absolument magnifique. Michel Tremblay a fait une adaptation digne. Waouh, c'est merveilleux. on l'a situé à Mont-Saint-Hilaire dans les années, fin des années 50, début des années 60. Donc, on est vraiment à l'époque du mini-jupe et tout. Ah, c'est merveilleux. Puis, une belle équipe aussi. Alain Zouvi, évidemment, était à la mise en scène. Une belle distribution. Béatrice Picard, Louise Deschâtelet, Pascal Desrochers, Christiane Raymond qui fait un retour sur scène, Myriam Poirier, Marie-André Lemieux, Sonia Vigneault. Écoutez, là, c'est ce que j'appelle...
J'aimerais voir la version qui a été faite ici.
Ouais. Ah oui, dès le mois de février, on commence à travailler en septembre là, sur le texte, faire des lectures, tout ça. Et puis Garçon aussi, c'était un charme aussi.
Un gros succès.
Je me suis installé avec les comédiens, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis tout le monde voulait le refaire. Donc on a reporté tout ça, on repart en tournée à partir de janvier, les représentations qu'on n'a pas pu faire... en mars et avril 2020, on va les faire en janvier, février, mars 2022. Donc ça, c'est un beau cadeau aussi. Et ce que j'ai pu faire aussi, parce que quand la SODEC a annoncé le fameux projet Innovation, j'avais dans mon collimateur de faire la belle, belle pièce de David Mamet, Oleana, que Raymond Cloutier avait fait en création. Ouais. J'ai dit, écoute Raymond, je serais prêt à le faire maintenant. Et lui, il était content parce que lui, finalement, il sortait d'un espèce de petit creux de vague là, qui n'était pas agréable parce que beaucoup de comédiens ont connu un creux pendant cette période-là. Et ouais. Catherine Deléon était disponible et toutes les planètes se sont alignées pour que finalement, je veux dire, je puisse faire ce spectacle-là. On a commencé à le faire, on a fait 15 représentations, au mois d'avril et mai 2021. Et là, j'ai pu faire organiser... structuré 25 représentations pour octobre, novembre, décembre 2021. Donc, on fait plus de 40 représentations avec Oleana. Donc ça, je suis très content. Ensuite, on enchaîne avec Garçon, 8 femmes, et puis qui sait où Béatrice et Marie-Josée en maudit vont nous mener aussi.
C'est ça aussi. Donc, parce que si j'ai
une belle année qui s'en vient. Ouais. Là.
Et ça fait du bien. Hein?
Ah, ça fait du bien.
C'est comme une porte qui s'ouvre, qui fait pouah!
Exactement.
Un petit peu d'air.
Sincèrement, quand on s'est retrouvés là, le premier soir, ça faisait presque un an, jour pour jour, qu'on n'avait pas joué personne. Et qu'on s'est retrouvés à Gatineau, à la salle Odyssée, à la Maison de la Culture. Bon, évidemment, on jouait avec des consignes de la santé publique. Donc, évidemment, c'était public réduit, mais public
quand même.
Il y avait du monde, et puis on avait des réactions, puis c'était... Mais c'est un choc, les deux, trois premières représentations, il a fallu s'habituer. Et il a fallu, évidemment, je veux dire, faire avec la situation. Je veux dire, c'était waouh!
Alors, d'abord, c'est le plaisir, c'est le bonheur de jouer devant quelqu'un d'autre,
exact.
Devant d'autres personnes. Après, c'est le regard dans la salle, et une salle à moitié pleine fait que c'est surprenant parce qu'on a l'habitude d'être...
Des grandes salles,
d'être
quand
debout,
on joue dans
des
une salle de 800 fauteuils et qu'on se retrouve devant 200, il faut faire une adaptation, là, absolument.
Adaptation sur scène, oui, je suis d'accord, mais aussi adaptation dans ta tête pour le comédien, parce qu'il joue sur... il a une autre vision de ce qu'il avait d'habitude, donc c'est toute une restructure, une façon de se recréer autrement.
Exact. Et à partir de ça, bien là, mon Dieu, tout ce qu'on va souhaiter, c'est de continuer. Parce qu'après 36 ans, je dois vous dire, je dois vous faire une confidence, je suis encore passionné par mon métier. J'aime
ça
encore
ça. Ça se voit pas du tout, hein, Jean-Sébastien? Non, ça se voit pas du tout. D'abord, ce qui est embêtant dans cette entrevue, c'est qu'il faut que je parle sans arrêt, ça me fatigue.
Mais j'ai encore le besoin, j'ai encore le désir de... pour moi, rendre des comédiens heureux, leur faire... qu'ils soient sur scène, à faire le métier qu'ils aiment. L'air de rien, hier, on regardait, parce que, bon, écoutez, j'ai eu le grand bonheur, puis je dis le grand bonheur parce que, pour moi, vieillir, c'est pas un drame. Je viens d'avoir 60 ans. Et,
bon anniversaire.
Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, on va signer l'événement à Rougemont. Et j'ai pu... Un comédien qui a fait un montage vidéo avec, diapositive, tout ça, Il dit, j'ai compté, Jean-Bernard, tout ce que tu as fait depuis 36 ans. Tu as donné du travail à 900 comédiens, artisans, concepteurs, auteurs, techniciens, traducteurs, etc. J'avais pas réalisé.
Ah oui,
que,
ça donne le frisson, hein?
Ben, j'ai dit, écoute, je pense que... Puis il m'a avoué autre chose aussi. Il dit, j'ai fouillé dans les archives et dit, tu es le plus vieux producteur, entre guillemets, là, de théâtre privé au Canada en longueur et en durée. Donc, il n'y a jamais eu personne qui a dépassé les avant moi. Là. Le plus, c'était 28 ans, 30 ans, 32 ans, tout ça. Mais la même compagnie qui année, faut dire, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 22 ans. Donc, évidemment, je veux dire, c'est en termes de longévité. Là,
La passion était là, mais c'est quand même pas évident de faire vivre un théâtre privé.
C'est moi, là, ne pas avoir eu, je vais être... Les dernières années, ne pas avoir eu le crédit d'impôt et surtout ne pas avoir eu mon grand partenaire qui est québécois, qui était Pierre-Carl Péladeau, qui nous a aidés, je veux dire, à passer à travers... Parce qu'évidemment, la vie d'un théâtre privé n'est pas un long fleuve tranquille.
Ah ben ça, je me doute un peu.
Il y a eu, évidemment, quelques secousses sismiques et quelques tremblements de terre. Il y en a eu 4, en fait, en 36 ans. Puis quand ça arrive, ça faut que le capitaine reste sur le bateau. Il ne faut pas sauter à la mer. Il faut rester, là, avoir le gouvernail au bon endroit, au bon moment. Tu ne peux pas te permettre. Donc, on a pu passer au travers. Et puis, on a pu continuer.
Tu as eu des moments où tu t'es demandé si demain allait exister pour le théâtre.
Ouais. Exactement. Ah, oui, il y a eu ces remises en question-là. Mais par contre, je veux dire, j'ai jamais perdu le firmament de vue. Je veux dire, j'ai toujours gardé espoir. Puis, vous savez, souvent, c'est dans l'adversité qu'on apprend le plus. Et puis, c'est là qu'on reconnaît ses vrais amis aussi, parce que...
Ah, ben, ça aussi!
C'est, vous savez, quand ça on, aussi! Exactement. Et quand on se retrouve dans une situation embarrassante, où finalement, l'argent n'est plus là, ou parce que parfois, des fois, vous êtes sûr d'avoir un as de cœur dans votre jeu, et vous faites une production, et là, finalement, pour une raison ou pour une autre, le metteur en scène, puis ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps... Il y a 4 ans, le metteur en scène a des problèmes entre les deux oreilles et on se retrouve dans une situation où finalement, je veux dire, il est pas bien, donc là, faut changer en cours de route. Donc déjà, quand tu arrêtes sur l'autoroute, là, puis que le spectacle est déjà... Puis qu'il faut que tu changes, tu te mets en danger, tes comédiens deviennent un peu insécures aussi à travers tout ça, donc ça a été... Oh non, je dois vous dire que...
Ah, parce que les comédiens comptent sur toi, donc ils sont aussi... eux, ils sont... Ils
et
ont,
moi,
ils,
je compte
ils
sur
un
metteur en scène aussi,
oui,
tu sais,
oui,
je veux dire, et si le metteur en scène n'est pas bien dans sa tête ou a des problèmes qui sont de nature autre que celui du théâtre, à ce moment-là, je veux dire, ça devient difficile, tu sais, je veux dire...
Alors, je croirais plutôt que quand on a la passion vissée au ventre, qu'on a la foi, et qu'on y croit, mais la foi de croire à ce qui va arriver, parce qu'on aime tellement ça qu'on cherche une solution, on chiale pas, comme on dit, et on cherche une solution, et bien dans ces moments-là, la plupart du temps, quand même, ça passe.
Et je dois vous dire qu'avec la COVID aussi, moi, je trouve qu'une personne absolument extraordinaire qu'on n'a pas assez parlé. Nathalie Roy, qui est notre ministre de la Culture, a fait beaucoup avec la SODEC pour permettre au théâtre privé de passer à travers cette pandémie, je veux dire, de façon absolument extraordinaire. Et ça, je tiens à la remercier, je veux dire, à profiter de cette tribune pour lui dire merci.
Merci à elle. On arrive en fin d'entrevue.
Ah, déjà?
Eh ben oui, je savais que tu allais trouver que c'était court, mais voilà. C'est déjà fini. Donc, du 25 au 28 août, au Théâtre Rougemont, allez entendre Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamp dans leur spectacle.
Béatrice et Marie-Josée en maudit, mais maudit évidemment, M-O-T-S-D-I-T-S.
Voilà.
Ils peuvent réserver directement, il y a une ligne sans frais, 1-888-666-3006, 1-888-666-3006.
Je vais lui laisser la parole. La prochaine fois, je lui laisse le micro. Je sors. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Bernard.
C'est
ça
moi
a été un plaisir,
merci.
Vraiment. Merci à Alain Labonté qui était avec nous en première partie. Jean-Sébastien, merci pour les chansons, pour la tenue de l'émission. Et on se dit à demain. À toi, ben, je te souhaite le meilleur. Et puis,
on
va venir voir la pièce. D'accord?
Ça va me faire plaisir.
Au revoir et merci.
À bientôt. Merci.